De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Depuis 2 ans, ils donnent plus largement de la voix et ont choisi plus massivement de dire non face à la dégradation de la planète et au réchauffement climatique. La génération Y, celle que l'on nomme aussi génération climat, sort dans la rue, manifeste, se mobilise quand elle ne se met pas en grève. Ils prennent les armes, les leurs, et ils nous font découvrir de nouveaux visages, ceux de jeunes gens qui, s'ils sont compris par certains de leurs aînés, dérangent aussi d'autres catégories d'acteurs de la société. Parmi ces jeunes engagés pour un nouveau monde, notre invité, Camille Etienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes étudiante de 22 ans en 4e année à Sciences Po Paris, jeune activiste pour le climat et puis vous êtes aussi auteure-comédienne d'un duo artistique, le duo Pensée Sauvage. Et vous deviez croiser la parole avec Laurent Fabius ce soir, mais qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous au dernier moment et ce n'est que partie remise, bien sûr. C'est donc avec vous que nous allons entrer dans votre parcours, votre engagement, dans un contexte particulier, cette crise sanitaire, on y pense, et puis à l'aube aussi des élections présidentielles américaines qui vont sceller la stratégie à venir face au réchauffement climatique. Et à nos côtés, Simon Roger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef des pages Planète du journal Le Monde et vous nous ferez aussi, outre le fait que vous êtes avec nous pour cet entretien, vous nous ferez découvrir tout à l'heure votre choix info de la semaine. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé comme toujours par Anaï Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Élise Leu.
Je suis désolée, on n'y est pour rien. On n'était pas là quand ils ont décidé de couper les arbres pour en faire des billets, de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des eaux. On n'était pas là quand ils ont décidé de trouer la couche d'ozone pour sentir bon nez dessous de bras, quand ils ont vidé les océans pour y mettre du plastique. On n'était pas là quand ils ont décidé que ça valait le coup de condamner certains à la misère pour nos t-shirts à 1 euro qu'on oublie au fond des placards. Quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il fallait mieux être designer ou start-upper que paysan, infirmier ou professeur. J'aimerais vous dire que ça va aller. Qu'on peut continuer à bing-watcher Casa des Papel, popcorn à la main, pendant que nos décideurs s'occupent de faire tout le sale boulot. J'aimerais vous dire que la technologie sauvera le monde. Que ces politiques en carton nous préparent autre chose qu'un avenir en porcelaine. Que les grandes compagnies ont compris maintenant. Ça y est.
C'est l'extrait de votre vidéo, Camille Etienne. Cette vidéo est devenue virale, hein. 15 millions, c'est ça, de vues?
Oui, ça nous a complètement échappé.
Un message délivré sous cette forme artistique. Parlez-nous déjà, parce que partons de cette vidéo, je pense qu'elle dit beaucoup à la fois de vous, de votre engagement et de ces messages. Le lieu du tournage en pleine nature et en plein froid.
Oui, c'est là où j'ai grandi, en fait. C'est exactement dans mes montagnes. Et ça me tenait beaucoup à cœur, parce que c'est aussi la raison pour laquelle je me bats. Et que quand je reviens un petit peu au vrai, à la raison qui me fait lever le matin et qui me fait passer des heures sur des plateaux, dans la rue, à rencontrer des décideurs, et c'est pas tous les jours agréable ni facile, et lire des rapports aussi, c'est pour ces montagnes-là en fait. Pour ces neiges éternelles, pour ces glaciers qui m'ont vu grandir et qui m'ont rappelé chaque jour, chaque matin, l'humilité qu'on devait avoir. Une avalanche, quand elle vient, elle en a pas grand-chose à faire de savoir si on est certifié sur Twitter ou si on prend nos petits déjeuners avec des gens connus. Elle passe et on est misérable finalement.
Vos racines familiales se trouvent où concrètement? Elles sont où ces montagnes?
À Pézé-Val-d'Andry, Pézé-Nancroix, dans un magnifique endroit où j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été très sensibilisés et donc de vivre dans un endroit où la route pour y aller n'est pas goudronnée, donc on ne peut pas y aller en voiture l'hiver. Et d'avoir dans un endroit de résilience en fait. Sans que ce soit conceptualisé, sans qu'il se revendique militant, mes parents m'ont élevé dans un endroit où la nature était omniprésente et où on en faisait partie. Et donc je pense que c'est une chance et c'est un privilège comme un autre et c'est un sacré privilège que j'ai eu et c'est pour ça aussi que j'ai envie de porter ce message-là et que quand je suis arrivée après à Sciences Po Paris en double cursus avec la Sorbonne en philosophie, j'ai pu voir que ces citadins n'avaient pas eu cette chance-là, ce privilège-là. Alors ils en avaient d'autres, mais pas celui-là, pas celui d'être proche de la nature et donc c'est pour ça que j'ai voulu lever ma voix.
Alors votre engagement concret, il démarque quand et avec qui?
j'ai du mal à trouver un déclic parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours. Avant, pour moi, c'était compliqué de comprendre que nous, on était capables, en tant qu'humains misérables qu'on soit, de menacer cette nature-là qui était si grande, si dominante. Et donc, c'est un concept que j'ai eu du mal à appréhender. Je pense que c'est l'arrivée à Sciences Po où je me suis dit que les personnes qui m'entouraient allaient être aussi des décideurs et que donc ils avaient une responsabilité, celle d'être au courant. Que je me rendais compte que beaucoup n'étaient pas au courant et que donc il fallait qu'on ose un peu lever sa voix. Je suis partie après en Finlande me former sur les questions d'agriculture et les questions de sciences dures pendant un an. Et en rentrant, je me suis engagée aussi avec le mouvement On est prêt, qui était un collectif d'artistes dont je suis devenue porte-parole.
Qui a été lancé il y a 2 ans, au moment où il y a les grandes manifestations.
Siècle, en fait, ils ont soutenu l'affaire du siècle, qui était donc la plus grande pétition de l'histoire de France, qui a eu plus de 2 millions de signatures pour porter plainte contre l'État pour inaction climatique. Donc de là est né un petit peu tout ça, et j'ai eu la chance, je faisais lien entre les scientifiques et le grand public. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables. Mon meilleur ami s'appelle Gilles Boeuf et on a 50 ans d'écart.
Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle.
Exactement.
Et océanographe.
Et aussi conseiller pendant un certain temps, conseiller scientifique, je crois.
De Ségolène Royal, voilà, qui était ministre de l'Environnement.
L'écologie. Donc en fait, la notion qui était compliquée à appréhender pour vous, c'est celle en fait de l'homme un peu prédateur de la nature, c'est ça qui...
Complètement. Ouais. Parce qu'on a toujours grandi avec l'idée qu'on en faisait partie, en fait, et que cette nature... Même le concept même d'environnement, je trouve, est un petit peu trompeur parce que environnement, on se définit comme si on n'en faisait pas partie. C'est environnement, ce qui nous entoure. Là où c'est fondamentalement faux, parce que dans l'essence, on est la nature. Donc si elle disparaît, on disparaît avec elle. Et d'ailleurs, on est bien plus en danger qu'une certaine partie de cette nature. Donc c'est aussi là où j'ai compris qu'en fait, justice sociale et climatique étaient extrêmement liées et que me battre pour l'un, c'était aussi me battre pour l'autre.
Et vous parlez des différents concepts, c'est vrai, il y a aussi ces concepts donc d'environnement, mais de nature, de biodiversité, et que par exemple le mot nature, on a tendance à considérer que l'homme est en dehors de la nature de par sa vie aujourd'hui, vit dans une société d'ultra-croissance, et que la biodiversité arrive comme un concept très technique, très scientifique, et est-ce que ce concept ne place pas, pour le coup, un peu la société civile en dehors de ces questions?
Je pense que c'est juste une mauvaise perception du monde, parce qu'en réalité, quand on regarde les services écosystémique, donc tous les services que nous rend la nature totalement gratuitement, on vit en interdépendance totale avec elle. Et que donc en fait, c'est se mettre soi-même en danger. Ce que je dis souvent, c'est que peu importe si vous en avez rien à faire des beaux yeux des koalas, je veux dire, tant pis. Peu importe si vous n'avez pas envie de vous battre pour les générations futures. Rien que ici, maintenant et pour vous, d'un point de vue purement égoïste, ça vaut le coup de se sentir concerné par ce qui se passe au point de vue du réchauffement climatique et de la 6e extinction de masse.
Et quand on porte ces débats dans les travées de Sciences Po, qu'on parle de services écosystémiques ou de déclin de la biodiversité, comment réagissent les camarades, est-ce qu'ils ouvrent grand les yeux?
Et les professeurs.
Et les profs, oui.
Sciences Po, c'est une petite société, il y a de tout. Il y a des gens brillants, il y a des gens très intéressants. Et Gilles Boeuf a été un des professeurs, d'ailleurs, à Sciences Po. Il y a aussi des gens qui ne sont pas au courant, beaucoup. Et ça m'inquiète particulièrement. Je pense que ce n'est pas juste les gens de Sciences Po, c'est la société aujourd'hui où, du coup, comment ça s'est passé? C'est qu'après, j'ai rencontré Greta, on a porté aussi des messages au niveau de la Commission européenne pour la loi climat. Et que je me suis mis à rencontrer des décideurs, dont le MEDEF. C'est la partie qui a été la plus médiatisée, mais il y en a eu d'autres. En fait, c'est aussi ce qui m'inquiète, c'est surtout la non-compétence. Et la non-compétence vient juste par un manque de temps. Donc, c'est-à-dire que ces décideurs ne consacrent pas une partie suffisante pour se former sur ces questions-là. C'est indéniable, c'est-à-dire que j'arrive devant des gens qui ont des responsabilités bien plus importantes que les miennes, qui sont plus âgés et qui, parfois, à qui j'apprends des choses. Et ça, c'est inquiétant. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu, donc c'est leur rôle en tant que politique.
Alors justement, Camille Etienne, dans la vidéo, donc vous proposez un programme complet, vous donnez aussi, bien sûr, cet avis, ces positions que vous portez, et pour vous et pour une partie de la jeunesse, parce que peut-être qu'il y a aussi des fractures, vous nous direz, dans cette jeunesse, cette génération Y, est-ce qu'elle partage largement cette conscience environnementale? On peut se poser la question, ou bien est-ce qu'elle est fracturé. Et puis, dans cette vidéo, vous portez aussi un jugement sur les générations précédentes. Vous dites, on n'était pas là. Et que quelque part, voilà, il y a les responsables, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment d'être quand même dans cette société fracturée et puis d'être en guerre
Non. Je ne veux pas qu'on tombe dans un combat des générations. C'est extrêmement important. Quand on utilise le mot boomer, pour moi, ça veut juste dire ces gens qui sont attachés à l'ancien monde et à ces valeurs-là, comme on croit au Père Noël, bien plus, comme un petit enfant à qui on ne veut pas retirer sa sucette, bien plus qu'à l'avenir de toute une population. Donc c'est important de comprendre que dans la jeunesse, il y a aussi des gens qui ne sont pas au courant, des gens qui n'ont pas envie que ça bouge. Et dans les plus âgés également. En fait, la génération, c'est nous maintenant. Il faut voir ça d'un point de vue beaucoup plus large et arrêter de faire des thèses sur qu'est-ce que la jeunesse. Bien sûr qu'elle est plurielle. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a besoin de vous. On a aussi besoin que les générations d'avant s'engagent et prennent leurs responsabilités. Nous, notre rôle, c'est quoi en tant que jeunes? C'est de poser les bonnes questions. Évidemment qu'on n'a pas toutes les solutions. Et on ne prétend jamais dire, écoutez, on va faire la révolution en étant les jeunes qui vont s'infiltrer de partout et on va révolutionner le monde. Non, ce qu'on veut dire, c'est que nous, c'est un cri du cœur. C'est un cri à l'aide, ni plus ni moins, pour dire on est inquiet. Donc, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Il y a des scientifiques qui cherchent, qui ont des solutions déjà, qu'on peut mettre en place. Il y a, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat qui a dit des choses extrêmement concrètes. Nous, ce qu'on dit, c'est écoutez les gens qui savent et puis prenez vos responsabilités. Quand vous êtes aux manettes d'un pays, prenez vos responsabilités. Et la réponse de cette génération d'avant, qui me paraît toujours un peu bousculante, c'est de dire, souvent, j'étais avec Nicolas Dupont-Aignan sur un plateau télé, qui me dit, mais très bien, mais vous êtes bonne, et ben écoutez, présentez-vous aux élections. Et je trouve que c'est un petit peu gros de faire peser sur l'intégralité d'une génération ce poids-là, quand nous ce qu'on dit c'est juste prenons chacun nos responsabilités là où on est.
Et c'est intéressant ce que vous dites parce que justement ça pose la question de vous, la jeunesse, quel regard portez-vous sur ce monde politique? Dans la vidéo vous dites les États et leur inaction, ne les laissons pas choisir pour nous. On le sent bien, vos actions ce n'est pas forcément pour entrer dans une carrière politique parce qu'on sent qu'il y a aussi une désaffection, ne serait-ce qu'avec l'abstentionnisme, hein, très important chez les jeunes. Donc vous dites on ne fait pas ça pour une carrière politique, on fait ça pour être des moteurs peut-être et puis des acteurs vous-même avec les autres. Donc, votre regard sur ce monde politique.
On me demande souvent quand est-ce que je vais rentrer en politique. J'ai l'impression que je fais déjà la politique. Parce que politique, dans ça, ça veut dire police, c'est la gestion de la cité. Et c'est exactement ce que je fais avec d'autres quand on amène sur la table des idées nouvelles qui concernent le commun. Il ne faut pas confondre le désintérêt de l'expression politique aujourd'hui qui est un vote pour un système extrêmement présidentiel avec un homme où on vote une fois tous les 5 ans et après un peu au revoir, débrouillez-vous, avec l'engagement et avec l'engagement de la jeunesse. La démocratie, elle est vibrante, vivante.
Elle devient très participative.
Là, bien sûr, les jeunes sont là dans la rue, ils se saisissent du commun, de leur avenir. Et donc, ils sont profondément engagés, ils sont profondément intéressés par cette question du sens et du commun. Donc, je pense que la politique aujourd'hui, elle est fatiguée, comme l'entreprise est fatiguée, comme ce vieux monde qu'on appelle souvent est fatigué, et que donc, il va falloir oser bousculer tout ça. Une chose importante, c'est juste que c'est une posture très humble de laquelle on part. On vient là dire des vérités dures, mais on ne dit pas, et quand, dans la vidéo, ce que je disais bien, c'est que vous avez, la génération d'avant, répondu aux défis d'un temps. L'agriculture intensive, pour prendre quelque chose de très concret, la révolution verte, peut-être que je suis là aujourd'hui grâce à ça, que ça a sorti des gens, de la famille, et je suis d'accord. Simplement, donc vous avez répondu à un besoin d'un temps. On se rend compte aujourd'hui que ça ne fonctionne plus, que ce système capitaliste ne fonctionne plus, parce qu'on en paye des conséquences qui sont physiques, biologiques, des réalités. C'est pas une question d'idéologie, c'est des réalités physiques et biologiques. Les glaciers fondent, les forêts brûlent. Donc, il va falloir aussi remettre ça en question pour être plus en phase avec ce temps-là. C'est simplement une question d'humilité.
Et quand vous dites on se rend compte, c'est pas seulement vous les jeunes, vous
non,
le disiez, c'est les chercheurs, les scientifiques et les rapports sur lesquels vous appuyez. Simon Roger.
Oui, parce qu'on vous demande souvent quand vous allez rentrer en politique, on vous demandera ensuite où, dans quel parti. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a un parti, en tout cas, il y a sans doute des mouvements politiques qui sont peut-être plus sensibles, j'imagine que oui d'ailleurs, j'ai même une petite idée, à ces questions-là que d'autres. Est-ce que vous, dans vos discussions que vous avez avec le monde politique français ou international, vous avez quand même une facilité de dialoguer avec les mouvements écologistes, par exemple, ou d'autres?
Je discute avec tous ceux qui veulent bien me recevoir, que ce soit au niveau des grandes entreprises. Je vais faire une conférence avec des dirigeants de Total, après-demain. Et il se trouve que, bien sûr, ces dirigeants politiques qui souhaitent me parler, en dehors des caméras comme devant des caméras, ce sont bien sûr des gens plus des Europe Écologie Les Verts et de la gauche, évidemment. Maintenant, si demain Marine Le Pen a envie de me rencontrer, je serai d'autant plus ravie parce que je pense que le pouvoir de lobbying citoyen serait d'autant plus intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau local. Il y a des maires, en effet, qui ont fait des choses intéressantes. Moi, je viens de Savoie, donc je suis forcément intéressée par le travail d'Éric Piolle à Grenoble parce que ça concerne mes montagnes et que je le trouve assez ambitieux sur certains points. Au niveau de la Commission européenne aussi, je suis en lien avec Marie-Tsang qui...
Une des actrices de notre affaire à tous,
c'est ça,
d'ailleurs.
Qui a porté l'affaire du siècle et qui est devenue députée européenne. Donc il y a des gens qui, à l'intérieur, font bouger les choses aussi. Et c'est faux de croire que, forcément, puisqu'on rentre en politique et qu'on essaie de faire changer les choses de l'intérieur, on est des grands méchants. La réalité est beaucoup plus complexe. Il faut en avoir conscience. La société est complexe. Donc ça, on se retrouve aussi en politique.
Alors, vous avez mentionné vos différentes confrontations et puis ce sentiment d'être la jeunesse et cette génération qui doit se battre pour une guerre que vous n'avez pas voulu. Donc avec parfois des discussions difficiles, comme vous le disiez tout à l'heure lors de l'université d'été du MEDEF, c'était les 28 et 29 août dernier.
Ce modèle-là, il ne va plus marcher très longtemps, c'est certain. Nous, on en a déjà marre. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de télétravail? Ça, c'est parce qu'on s'ennuie aussi chez soi, on a besoin de liens humains, on a besoin de toutes ces choses complètement tombées en désuétude. mais qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour, la solidarité, tout ça, les choses comme ça. Donc je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudra dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir.
Alors, vous êtes ici quand même à la REP du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Donc j'aimerais quand même vous parler de la croissance.
Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Donc vous êtes pour une forme de décroissance.
C'est un débat qui se trompe pour moi de terrain, parce que on parle de croissance en parlant de PIB. Je pense que si c'est croître en bonheur, en équité, en paix, mais croissons, je veux dire, bien sûr, hein, mais décroître pour rester dans des limites planétaires et nous assurer un avenir, c'est du bon sens. Je pense que personne de sensé peut réellement soutenir.
Mais concrètement, Camille,
Étienne,
comment on s'y prend concrètement?
Il faut qu'on ose changer doucement et qu'on ose changer ensemble. Et il y a plein de modèles différents qui existent. Il y a plein de modèles qui se bougent. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser, il propose plein de choses. 150 citoyens qui ont mis 149 mesures. Oui. Il y a plein de choses concrètes qui agissent et qui pourraient être mises en place demain et qui sont très pertinentes et qui vont dans une logique de produire moins pour s'enlever de tout ce qu'on n'a pas besoin concrètement.
Camille Etienne, on sent que ce moment n'a pas été facile, il y avait une assistance. Alors il faut quand même expliquer que oui, il peut y avoir ces entreprises peut-être fatiguées, ou en tout cas qui s'accrochent à un modèle économique actuel moins déstabilisant que celui dont beaucoup d'économistes d'ailleurs, de scientifiques, de chercheurs parlent. Et c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont proposés pour réinventer le monde en lien avec la nécessaire préservation de la planète et de nos écosystèmes et la question du réchauffement climatique. Il y a aussi des start-up qui se montent, donc des jeunes pousses, comme on dit, avec un engagement plus vertueux. Mais il y a toujours cette question donc de l'entreprise, le modèle économique pour demain, quelle place du travail et la croissance. Si la croissance est un mot qu'il faut peut-être voir, le mot décroissance fait peur. Comment vous êtes senti déjà, vous, Camille Etienne, face à ces chefs d'entreprise? Quelles ont été les réactions? Et est-ce que malgré tout, il n'y a pas moyen de travailler pour ces entreprises de demain?
Comment est-ce que je me suis sentie? Très rapidement, là ça a été médiatisé, il se trouve qu'il y avait un journaliste dans la salle, mais que ça arrive souvent, que c'est pas la première fois que ça m'arrive et que c'est souvent que ces réactions sont comme ça. En fait, je pense que simplement, on fait peur. Il y a ce qu'on appelle la courbe du deuil, où on doit passer, on doit faire le deuil d'un vieux monde. C'est un récit qu'on s'est raconté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens donc passent par plusieurs phases, qui sont d'abord le déni, et donc là, beaucoup de climato-sceptiques sont restés bloqués là, ont envie de garder leurs privilèges en disant « c'est pas possible, c'est pas vrai ». La peur, la tristesse, la colère, et je pense que c'était simplement leur mettre face à eux l'idée que ce n'était pas possible de continuer ainsi, et donc bousculer leur chaise en or sur laquelle ils sont assis, donc ça leur fait peur. Et après, il y a l'acceptation aller de l'avant. Schopenhauer dit aussi « toute vérité passe par trois étapes. D'abord, elle est ignorée, puis ridiculisée, combattue, et enfin, elle est acceptée comme ayant toujours été une vérité. Je pense que c'est pas facile pour nous, la jeunesse, et pour tous ceux qui portent ces discours-là, que ce soit quand on parle d'ayatollah, quand on s'excite sur des histoires de sapin de Noël. Je pense que c'est parce que fondamentalement, on fait peur, et que peut-être, j'espère, demain, ce sera accepté comme ayant toujours été une vérité.
En sachant que les réactions dont on parle au niveau des chefs d'entreprise, elles se retrouvent aussi dans la société, c'est-à-dire
bien
cette
sûr,
peur de bouleverser les choses, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'autruche aussi. Donc ce n'est pas non plus un changement facile, si ce n'est que des économistes ou comme Gaël Giraud, ou des philosophes comme Dominique Bourg ou d'autres, on imagine ces modèles-là. Simon Roger.
Si je peux ajouter quelque chose dans cette séquence, au-delà de son aspect médiatique, c'est quand même assez frappant, j'ai envie de dire presque accablant, mais en tout cas frappant que cette notion de décroissance, c'est vraiment, ça reste un mot qui fait peur, ou un mot, carrément une sorte de gros mot pour certains, alors qu'en fait, finalement, on en parle les uns les autres, nous, dans nos papiers, la société civile en parle, quand on parle de, je sais pas, de frugalité, ou de frugalité énergétique, ou de questionnement sur le modèle de demain, c'est des questions sur le modèle de croissance, et donc la décroissance. Et pourtant, la décroissance est encore un mot tabou qui bloque
fait peur.
Beaucoup les décideurs publics.
Complètement. Et je pense qu'il faut juste se rendre compte qu'en fait, c'est un récit. Il y a deux choses. Moi, je pense que ma position de la jeunesse, c'est de jamais prétendre avoir toutes les solutions, mais de dire questionnons les termes. En fait, les termes bougent. C'est ce qu'on en fait. Le langage, c'est ce qu'on en fait. C'est à nous de lui donner du sens. Donc, la démocratie, la politique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous, notre génération, on a envie que ça veuille dire demain? C'est la même chose. L'économie, c'est quoi? À la base, c'est un récit. Et ça, beaucoup de gens ont oublié que c'est des réalités qui ne sont pas performatives. Quand je dis, je prends mon billet de 10 euros et que je dis
ce billet vaut 10 euros. Il vaut 10 euros parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il vaille 10 euros. Si demain on dit ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas. L'économie, c'est une question de confiance, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est un récit. À l'inverse, qui a des impacts dans la réalité, bien sûr, mais ça dépend du récit qu'on lui donne. À l'inverse, quand je dis qu'il n'y ait plus de CO2 dans l'air, eh ben, il y a manifestement encore du CO2 dans l'air. Si je décide que les banquises arrêtent de fondre, elles continuent de fondre. Ce sont des réalités physiques et biologiques. Et en fait, ce que ne comprennent pas ces gens-là, c'est qu'ils ont pris un récit, donc le récit capitaliste qu'on nous a bien sermonné depuis notre tendre enfance, pour une réalité. Ils ont confondu des réalités physiques et un récit qu'on se raconte. Donc c'est à nous aussi de changer ce récit-là. Et je pense que cette jeunesse est prête à le faire. Sur la décroissance, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend les mauvais indicateurs. Aujourd'hui, le PIB, une marée noire, est très bon pour le PIB. C'est-à-dire que détruire l'environnement, c'est génial. Ça fait des emplois, des gens vont devoir sortir. Bien sûr. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? À la base, l'économie, c'est quoi? Je finirai là-dessus. C'est l'idée, c'est de... On est d'accord qu'on veut tous produire de manière à avoir accès à l'école, à avoir une éducation, à vivre en paix et à avoir accès à la nourriture et à être heureux. Finalement, c'est ça une société. Donc on produit de manière à subvenir aux besoins de tout le monde. Mais on ne produit pas de manière démesurée. C'est un moyen et pas une fin en soi. Et là, on a confondu, c'est devenu une fin en soi. Et on veut produire de manière infinie dans un monde fini, aux ressources limitées. Et donc on dépasse des limites planétaires qui sont des réalités physiques. Et les scientifiques sont tous d'accord pour dire que si on passe ces 9 limites planétaires, on passe à des phénomènes d'emballement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est mal barré.
D'où le récit qui aujourd'hui parle de croissance verte, un plan de relance économique à hauteur de 100 milliards avec un tiers de ces 100 milliards fléchés vers justement des investissements verts. C'est aussi un récit qui prend place non pas uniquement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et là, on aura peut-être, Camille Etienne, du mal à se passer de l'engagement politique, puisque ces chefs d'entreprise ont souvent besoin aussi d'être épauler, aider pour basculer dans un monde de production verte, parce que face à eux, il y a aussi la concurrence internationale.
Bien sûr qu'il y a cette question de concurrence internationale, mais en fait, il faut, même quand on parle au niveau national, là par exemple, le Conseil pour le climat a rappelé la France en disant vous êtes en train de produire 11 tonnes de CO2 par personne, le GIEC nous dit que c'est uniquement 2 tonnes par personne. Pourquoi? Parce que la part de nos émissions importées est extrêmement importante. Donc évidemment que c'est beaucoup plus trouble et qu'on ne peut pas uniquement réfléchir à un niveau national et que tout ça, mais quand même, si j'ai un message à faire passer, c'est que regardons d'abord ce qu'on fait chez nous avant d'essayer de montrer du doigt, parce que c'est un gros argument de dire oui mais alors la France très bien, mais au final on n'est que 4% face à ces gens qui... Non, nous, on a un pouvoir aussi diplomatique qui est que la France est écoutée, regardée au niveau européen rien que sur la loi climat et que donc on peut infléchir et tirer aussi avec nous d'autres pays.
Précisément à l'échelle européenne, il y a justement le Green Deal, bien donc sûr. Le pacte vert que veut porter la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Donc là aussi, il y a aussi un récit qui doit se construire, un récit politique et économique, diplomatique peut-être même.
Puisque nous parlons de l'international, partons à l'international. Je vous propose d'écouter cet extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 16 août 2020. Il y est question de Brésil, d'Amazonie et de feu.
Armés de simples tuyaux et de seaux d'eau, ces habitants tentent de sauver ce qu'ils peuvent. L'Amazonie, sous les flammes, comme chaque été, des milliers d'hectares de la plus grande forêt du monde se transforment en brasier.
L'incendie est hors de contrôle. On essaye de sauver les animaux, de sauver les maisons. Vous voyez, c'est la chose la plus importante maintenant.
Un été 2020 déjà catastrophique pour l'un des poumons de la planète. Sur les 10 premiers jours d'août, plus de 10 000 incendies ont été détectés. C'est 17% de plus que l'année dernière à la même période. Ces feux d'origine humaine sont causés par une déforestation galopante en Amazonie. L'équivalent de plus d'un million de terrains de football ont été déboisés en un an.
Le feu est une conséquence de la déforestation. Ce n'est pas seulement pendant la sécheresse que le feu doit être combattu. Pour combattre le feu, il faut combattre la déforestation.
Combattre, à condition d'accepter la réalité. Lors d'une conférence sur l'Amazonie, le président brésilien Jair Bolsonaro a tout simplement nié les incendies.
Parce que c'est une forêt tropicale, comme la plupart d'entre vous le savent, elle ne peut pas prendre feu. Donc cette histoire selon laquelle l'Amazonie brûle est un mensonge.
Des dizaines d'associations environnementales réclament l'interdiction des feux volontaires pour les propriétaires forestiers, première cause des incendies.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
L'Amazonie, le Brésil de Jair Bolsonaro, on pense bien sûr aux États-Unis de Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine. Ce monde international et avec ses enjeux environnementaux, climatiques, on voit bien que c'est difficile aussi de ne pas faire en sorte de considérer ce tout, hein, la planète, ce n'est pas uniquement nos territoires et ce pays-là. Comment est-ce que, voilà, vous, jeunes, vous regardez cela aussi? Parce que on voit bien qu'il y a quand même, et on l'a entendu, hein, depuis la crise sanitaire aussi, des oracles qui jugent que la planète est déjà hors contrôle et que tout est en marche pour accélérer l'effet de serre. Donc voilà, à quoi bon, dans cette crise de Covid-19, on a entendu des climato-sceptiques et des climato-négationnistes juger bon de rejeter toute action pour le climat et préconiser de se concentrer sur la pandémie. La concurrence des batailles, elle existe, même si on sait aujourd'hui que cette crise sanitaire est aussi une crise environnementale.
Sur la question de comment est-ce qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Déjà, on a un rapport émotionnel à la nature et on se rend compte de ça. Je sais pas si ça vous a fait quelque chose, mais moi, ça, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux, pratiquement, ça me fait vibrer. Mais en fait, agir chez nous, c'est avoir un impact là-bas. Et se rendre compte que la déforestation, pourquoi est-ce qu'il y a une déforestation aussi au Brésil? C'est parce que nous, on consomme, dans nos pays développés, énormément de soja pour nourrir notre élevage. Donc en fait, on a un impact directement à ce qui se passe là-bas. Il faut bien se rendre compte que ces pays dans lesquels vivent ces choses-là, on a une responsabilité énorme.
En tant que consommateur?
En tant que consommateur et en tant qu'aussi, quand on signe des accords, comme on a failli le faire avec le Mercosur, on participe grandement quand même à accentuer ça, donc autant qu'aussi que politique. Donc se rendre compte qu'en fait, déjà balayer devant sa porte, ça a des impacts au bout du monde. Parce qu'on vit dans un monde tellement mondialisé, qu'aujourd'hui, en fait, acheter un pull Zara, c'est participer à l'exploitation de musulmans ouïghours qui sont enfermés dans des camps. Donc, en fait, vouloir sauver le monde loin, c'est aussi déjà regarder ce qu'on fait chez nous, en France. Ça, c'est très important.
Nous aussi, ça nous fait de l'effet de voir... Et je suis même aussi, d'ailleurs, affecté par voir les koalas, alors que vous, non, pas du tout. Mais par voir les koalas qui sont aussi pris dans les incendies, dans les feux de forêt géants en Australie. Et c'est désespérant parce que ces sujets-là, on les fait tous les ans maintenant depuis quelques temps, dans les pages du Monde et dans d'autres journaux, évidemment. Donc il y a ce côté cyclique et un peu, en même temps, enfin bon, cyclique, mais c'est pas une raison pour, évidemment, accepter cette situation de fait. Non, l'autre élément que je voulais juste donner, là encore en référence à des papiers qu'on fait les uns les autres, c'est que ce qui est aussi un peu désespérant, c'est le désarroi dans lequel se retrouvent les populations. Évidemment, et on en parlera peut-être un peu, il y a la responsabilité très forte des dirigeants. Jair Bolsonaro, pour pas le nommer, pour ce qui est du pillage des ressources amazoniennes. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens sur place, des paysans qui sont complètement paumés et qui n'ont que pour seule alternative, en tout cas pour seul horizon, ce qu'ils connaissent, c'est de défricher, de brûler la forêt. Donc là, on revient sur la question qu'on a un peu abordée tout à l'heure, qui est celle des alternatives, du modèle de créer un nouvel horizon pour une planète un peu plus durable.
Est-ce que concrètement, vous êtes en lien avec d'autres mouvements de jeunes à travers la planète, Camille Etienne?
Oui, bien sûr, qu'on essaie de se coordonner un peu tous ensemble et de faire des choses, surtout au niveau européen, avec Adèle Charlier, Hanouna, Greta, Louisa et les autres, dont on parle moins, mais qui sont aussi là et très importants. Surtout là, parce que nous, on s'est concentré sur le Green Deal et la loi climat, qui devait être votée en décembre, finalement.
Et pour vous, c'est l'Europe. Ça passe d'abord par l'Europe, peut-être.
Non, en fait, c'est juste qu'on fait ce qu'on peut partout où c'est possible. Et que, en fait, c'est ça, ce qu'il faut prendre compte, c'est que on a besoin de tout le monde. Et qu'il y a des gens incroyables qui se battent là-bas, sur place. Et que nous, on n'a pas du tout le savoir qu'ils ont et la légitimité qu'ils ont. Et je pense que nous, notre rôle, c'est aussi, moi, je sais parler aux Français qui me ressemblent. Et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Et je pense que ces gens-là, il y a des activistes qui vivent dans ces endroits-là qui sont des personnes incroyables. Même au niveau des connaissances, en fait, je pense qu'il faut pas qu'on tombe dans l'idée de dire, nous, on sait, on va imposer de la même manière scientifique, en fait, aussi. D'ailleurs, ces gens-là qui vivent sur place, les peuples autochtones, c'est ceux qui connaissent le mieux la forêt, qui sont le mieux à même de savoir exactement comment la protéger, qui détiennent le savoir. Donc, il faut juste leur laisser plus de place. Et c'est la même chose pour nous aussi dans l'activisme, je crois.
Simon Roger.
Vous venez d'évoquer Greta, la suédoise, Hanouna, la belge, Louisa, l'allemande. Vous êtes française, mais il n'y a que des filles dans les têtes de ce mouvement. C'est pas une critique, mais c'est un constat un peu...
Quand je disais qu'on bousculait les vieux mondes.
Que font les garçons? Il y a pas de...
Il y a plein de garçons qui se bougent, mais pour une fois, je pense qu'on a envie d'incarner aussi des valeurs nouvelles, un peu plus inclusives et un peu, et qui changent ça. Et évidemment que les deux sont liés. On parle d'écoféminisme et il faut qu'on ose d'autant plus y aller en tant que fille. Alors, sur les plateaux télé, je me fais souvent couper la parole parce que aussi je suis une fille, mais ça m'a permis, entre guillemets, de compenser, d'autant plus lever ma voix. C'est vrai qu'on est un sacré groupe de filles et que ça fait partie des valeurs aussi. Les garçons sont les bienvenus, mais on incarne en fait aussi dans les mouvements et dans notre manière de militer, on incarne aussi les nouvelles manières de faire. Je pense un peu plus de cohérence. On va jamais aller au COP en avion. Et on va laisser un peu plus de place aux filles parce qu'elles ont des choses à dire.
Alors comme aujourd'hui sur le plateau, vous êtes en minorité, Simon Roger, donc vous êtes le seul homme parmi nous, eh bien je vous laisse la parole pour nous donner votre choix musical.
Alors le choix musical, c'est Julien Doré, une chanson qui s'appelle La Fièvre, qui est assez récente je crois, et que j'ai découvert récemment, et je me dis que Julien Doré se met, ou s'est peut-être mis il y a fort longtemps à ces questions-là, en tout cas il y a... On sent comme une sorte de sensibilisation à ces questions climatiques et de dégradation de la planète.
Il y a un garçon qui s'engage alors.
Voilà.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre.
C'est la suite de notre magazine de l'environnement de Cause à Effet sur France Culture, consacré au mouvement jeune face à l'urgence. Sur qui s'appuyer? Est-il encore temps d'agir et de réagir? Nous en discutons avec Camille Etienne, étudiante en quatrième année à Sciences Po Paris, jeune activiste pour le climat. Elle est également auteure comédienne du duo artistique Pensée Sauvage. Et tout de suite, je me tourne vers vous, Simon Roger. Vous êtes notre œil du monde planète dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur sur une info que vous avez sélectionnée ce soir pour nous, et je crois que vous avez choisi de regarder du côté de la biodiversité et des négociations possibles.
On parle beaucoup et on va continuer à parler évidemment du climat, des marches pour le climat, de la mobilisation de la jeunesse sur ces thématiques-là, mais il y a aussi une autre urgence sur laquelle il faudrait intervenir rapidement, c'est la question de la biodiversité, de la biodive, comme le disent certains. Et s'il faut donner quelques chiffres pour s'en convaincre, notamment issus du dernier rapport du WWF, le Fonds mondial pour la nature, tous les deux ans fait une sorte d'état des lieux, un indice planète vivante dans lequel il recense un peu la situation de la planète. Et dans sa dernière livraison, on y apprend notamment que les populations mondiales de vertébrés ont décliné de 68% en moyenne entre 1970 et 2016. Donc certes, les vertébrés ne sont qu'une petite minorité des espèces animales connues sur Terre, mais c'est quand même une chute vertigineuse. Et on pourrait aussi, on a parlé du Brésil, parler des millions, des 13 millions d'hectares qui disparaissent chaque année, du million d'espèces menacées d'extinction. Donc évidemment, la situation est assez critique. Et comme pour le climat, on a dans ce cas de figure à la fois une question, en tout cas le mélange à la fois des connaissances scientifiques, des moments de mobilisation et des moments de négociation. Alors les connaissances scientifiques, le climat, son GIEC, instance maintenant bien connue, qui publie des rapports et qui permet d'adosser les décisions des politiques quand les politiques veulent bien agir. La biodiversité, elle, a sa plateforme qui s'appelle l'IPBES, plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est compliqué à dire, mais en tout cas, il y a ce substrat scientifique qui est important. Les mobilisations, alors ça vous a peut-être échappé parce que ça n'a pas forcément fait la une des journaux ces derniers jours. C'était par exemple le 30 septembre, une grande manif sur la rive opposée du siège des Nations Unies à New York, sur les questions de biodiversité, dans lequel les militants de Greenpeace ont dressé deux statues de glace, l'une représentant Bolsonaro, le président brésilien, et l'autre Donald Trump, le président américain. Et les militants voulaient pointer du doigt l'inaction de ces deux chefs d'État face à la question de la biodiversité. Mais plus intéressant, à ce même moment, de l'autre côté de la rive, se tenait un sommet pour la biodiversité. Alors peut-être que Camille a assisté au sommet climat qui maintenant ponctue de temps en temps les assemblées générales des Nations Unies au mois de septembre. Et là, c'était la première fois du genre. Enfin bon, il y avait un sommet pour la biodiversité. Et à ce sommet pour la biodiversité se sont exprimés, alors certes de façon virtuelle, par message interposé, 150 chefs d'État et de gouvernement. Et évidemment, on peut imaginer que ces 150 prises de position n'étaient pas forcément toutes très sincères. En tout cas, il y a quand même une sorte d'appétit ou de nouveauté. Les chefs d'État et de gouvernement ont envie de se positionner sur ces questions de biodiversité. Et ça, c'est intéressant. Et là encore, comme dans la sphère du climat, on voit évidemment des fractures se faire entre des nations volontaristes. On a parlé tout à l'heure des nations européennes, c'est souvent le cas, de pays comme le Mexique, le Costa Rica, qui est vraiment une réserve de biodiversité et très très active sur ces questions-là, et des nations qui sont réfractaires. Réfractaires, voire carrément hostiles au processus multilatéral. Et là, on retrouve malheureusement souvent les mêmes, le Brésil de Bolsonaro ou encore les États-Unis de Donald Trump, donc les deux grands absents de cette discussion.
Et puis alors, dans les négociations relatives au climat, il y a des chiffres qui concernent les débats. Ces débats, on parle de 30% des mers et terres à préserver.
Voilà. Dans les négociations climat, le chiffre d'or, c'est celui des 2 degrés de réchauffement climatique. Le seuil qu'il ne faut pas franchir pour rester dans une limite supportable, c'est le chiffre d'or, en tout cas le chiffre inscrit dans l'accord de Paris de 2015. Et ben, dans les négociations en biodiversité, le chiffre qui anime les débats, c'est celui de 30%, donc des terres et des mers à préserver. Ce qui est un chiffre d'ailleurs intéressant, en fait, qui correspond d'ailleurs à, là encore, à un fil de négociation qui n'est pas nouveau, comme les négoclimats qui ont démarré, en fait, finalement, après le sommet de Rio en 92, ont démarré en parallèle des négociations et sur la lutte contre la désertification et sur l'érosion de la biodiversité, avec des moments forts, comme par exemple, il y a 10 ans, des objectifs qui s'étaient imposés au Japon et qui étaient un peu les prémices de ce 30%, qui étaient les objectifs de Daichi. Donc 30%, c'est intéressant. En fait, ce qu'il faut dire aussi, et là encore, on retrouve un parallèle avec le climat, c'est que c'est vraiment un consensus politique. C'est un chiffre éminemment politique. En fait, les chercheurs ont plutôt tendance à considérer que c'est à peu près 50%. 50% des terres et des mers de la planète qu'il faudrait préserver pour s'assurer une sorte de soutenabilité de la planète. Et actuellement, on est à peu près à 15%. Des terres qui jouissent d'un statut d'air protégé et à peu près 7,5% des mers de la planète. Donc on est encore loin du but.
Merci Simon Roger. Camille Etienne, une réaction peut-être ?
Bien sûr, deux choses simples. La première, c'est que là, ce que vous venez de finir avec votre chronique, c'est qu'on n'y est pas. Qu'il y a la différence entre ce qu'on va faire et ce que réellement on devrait faire. Là, pour reprendre sur le climat, les 2 degrés maximum de réchauffement, même 1,5, si on suit l'état actuel de nos ambitions politiques, on est à une trajectoire entre 5 et 7 degrés. D'ici la fin du siècle, selon l'optimisme ou pas des projections. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Et là, pareil pour la biodiversité, quand on dit qu'il faudrait au moins 50% et 30%, évidemment qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui, c'est 17-18%, comme vous disiez. Donc en fait, la réalité, c'est de dire que quand on dit que nous, on est beaucoup trop radicaux, qu'on est beaucoup trop alarmistes, simplement des scientifiques disent, voilà ce qu'il faut faire si vous voulez rester en vie. Nous, si on suit l'état de l'ambition actuelle, on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Une chose simple aussi, c'est que on se bat pas pour les générations futures. En fait, dans ce monde-là, même à 1,5 degré, il y a des conséquences déjà qui sont énormes. En 2050, à ce rythme actuel, c'est quand même 1 milliard de réfugiés climatiques. C'est la quasi-totalité des grands mammifères qui auront pratiquement disparu. C'est la moitié de la forêt amazonienne, la totalité des coraux marins. En 2050, moi, j'aurai 52 ans. Donc, en fait, tous ces chiffres-là qui sont dans les rapports, ils sont extrêmement importants. Mais se rendre compte qu'en fait, on fait des grands chiffres en disant 2050, 2030, nous, on va le vivre et on sera pas vieux. Et donc, c'est même pas pour les générations futur que vous vous battez, c'est pour nous. Voilà, c'est des réalités physiques, biologiques, pas encore une fois de l'idéologie. Pour donner un peu d'espoir quand même, la biodiversité c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que pour le climat, entre guillemets, dans tous les cas, même si d'un coup on arrêtait toutes les émissions, le CO2 et les autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, ont une durée de vie dans l'atmosphère. Donc dans tous les cas, les glaciers continueront à fondre, etc. Le climat continuera à se réchauffer un certain temps. La biodiversité, là où c'est une extrêmement bonne nouvelle, c'est que la nature est très résiliente. Elle est capable de revenir. On l'a vu par exemple.
Et de s'adapter.
Et on l'a vu par exemple en Thaïlande, ils ont fermé une plage aux touristes. D'un coup, les coraux sont revenus, les poissons sont revenus. En Inde, ils ont nettoyé complètement une plage des déchets. Et ben les tortues sont revenues pondre. Si on arrête de mettre des pesticides dans les sols, et ben la nature aussi reprend. Donc en fait, c'est là où c'est très beau, c'est que c'est encore possible et que cette biodiversité-là, elle nous donne énormément d'espoir parce qu'elle nous montre que si on fait des actions maintenant, c'est pas encore trop tard.
Des actions pour la préserver. Merci à tous les deux. Et bien sûr, je précise que toutes les informations sur ce sujet sont à retrouver comme d'habitude sur notre site et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Nous les privilégiés, on a usé les coutures du canapé, on a fait péter les applis pour des abdos en béton, on s'est fait des apéros pixelisés, on a enfin appelé nos grands-mères, on a laissé tomber les soutifs, on a appris à coudre des masques. Nous avons été des héros en pyjama, nous avons sauvé des vies en pantoufles. Mais cette fois, il ne va pas s'agir de rester chez nous. Demain, il va nous falloir être encore plus courageux. Une nouvelle histoire nous attend dehors. Et croyez-moi, il va y avoir du boulot. Il va falloir se bouger, sortir dans les rues, pancarte à la main, mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires, descendre des avions et se réconcilier avec le Luberon, laisser les énergies fossiles dans le sol, réduire nos 4 steaks hachés par semaine et nos sushis Deliveroo du samedi soir, enfourcher les vélos, éteindre la lumière en partant, débrancher des écrans, se reconnecter au vivant. Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Qu'on soit plus que quelques-uns à être écolo. Drôle de case, coupe dans laquelle on a rangé ceux qui amassaient la vie pour se battre pour elle. Sauver la planète, protéger l'environnement. Comme si on ne faisait pas partie de ce tout. Nous sommes des êtres vivants, au même titre que les autres que nous exterminons. Nous sommes la nature. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle.
Camille Etienne, c'est un nouvel extrait de la vidéo que vous avez réalisée avec le duo, on peut rappeler son titre.
Entrée sauvage.
Et donc, on sent, vous portez bien sûr cette terre, la santé, vous parlez aussi de justice, hein. On n'aura pas l'occasion d'aborder tous les sujets, mais cette justice aussi climatique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Vous parlez de vous, les jeunes, des héros en pyjama pendant ce confinement, et c'est durant ce confinement que vous avez eu aussi cette envie de faire cette vidéo. Ces mouvements de la jeunesse, est-ce que ils peuvent faire peur, tout simplement parce qu'on a bien vu qu'il y avait des étudiants des grandes écoles, que ce soit Sciences Po, l'ENA, HEC, Centrale et d'autres, qui aujourd'hui disent on ne veut pas sortir de ces écoles, aller travailler dans des entreprises non vertueuses.
Bien sûr, ben en fait c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que nous on fait l'effort, et moi je fais l'effort d'aller aussi dans le monde, comme on l'a fait avec le MEDEF ou d'autres mouvements d'ailleurs, pour dire écoutez, rencontrer ces chefs d'entreprise et dire, comme on peut le faire avec des politiques, en disant si vous ne prenez pas au sérieux cette question, puisqu'il s'agit de notre vie quand même un peu, c'est pas un détail pour un vivant la vie, et ben on ne votera pas pour vous. De la même manière, dans les grandes entreprises, dans tous les cas, on ne viendra pas travailler chez vous. On n'est pas suicidaire, donc dans tous les cas, c'est soit vous changez, et dans ce cas, on le fera avec vous, et on mettra notre talent, notre énergie. Il faut savoir ça aussi, c'est-à-dire que le jour où il y a des gens qui décident de vraiment prendre ça au sérieux et de faire cet effort-là, de considérer l'urgence, et ben on marchera dans leurs pas en fait. On marchera avec eux, on se tiendra la main. Et donc là, c'est la même chose. Le jour où ces chefs d'entreprise décident de prendre le problème sérieusement, et ben on ira travailler chez eux. Maintenant, ce sera pas le cas.
Et alors des jeunes qui n'hésitent pas à s'engager dans des mouvements, dans des actions aussi de désobéissance civile. Aujourd'hui, on peut voir ces jeunes gens qui traversent une frontière, en tout cas qui est désobéissance civile.
C'est la prochaine vidéo Pensée Sauvage, vous le dis en exclusivité, dans deux semaines qui sort, sur le sujet de désobéir.
Désobéir et résister civilement, pacifiquement, de façon non violente, en espérant que ça ne déborde pas, quoi, c'est ça?
Sur la question de la violence, il faudrait une émission entière. Moi, ma position est celle de la non-violence, toujours. Je comprends que certains puissent être très énervés et dire que y a une violence symbolique tellement forte que finalement, dégrader des vitrines, etc., c'est pas très grave. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Toujours est-il que, sur la désobéissance, en fait, il faut dire aussi qu'à un moment donné, si les lois sont injustes, encore une fois, re-questionnons les termes. Obéir à quoi? Obéir à des gens où on peut aujourd'hui être en prison parce qu'on est noir aux États-Unis, on peut se faire tuer parce qu'on est noir, ou on est moins payé parce qu'on est une femme. Obéir à ces règles-là, moi j'ai pas envie d'obéir à ces règles-là. Par contre, j'ai envie d'obéir à des valeurs qui sont celles qu'on partage à peu près tous, qui sont des valeurs humanistes de paix, d'amour, tout simplement, et de liberté.
Alors, en tant qu'étudiante aussi en philosophie, est-ce que Henry David Thoreau fait partie de vos icônes?
Un petit peu, j'avoue. La désobéissance sensible, oui. C'est...
Walden,
j'ai
vous l'avez lu?
Tous les livres que je recommande d'ailleurs, qui sont très beaux.
Quand même, un des premiers aux États-Unis, fin 19e,
désobéir,
avoir désobéi et puis prôner aussi cette résistance civile non violente. Simon Roger, sur ces questions justement de ces jeunes, est-ce qu'on peut leur prêter un pouvoir ou pas? Cette position qui est la leur de dire on ne veut pas travailler dans un monde non vertueux demain.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démarche est intéressante. Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait faire le point sur comment, où en est cette initiative, notamment ce mouvement des jeunes des grandes écoles, et voir un peu, d'ailleurs, peut-être que vous avez l'occasion de le faire, de quelle est la réaction des entreprises quand vous allez voir
des grandes boîtes. Vous seriez surpris.
Qu'est-ce que disent les entreprises en privé? Est-ce qu'ils sont inquiets de ne pas pouvoir compter sur ce vivier-là et donc s'interrogent un peu ou balayent un peu d'un revers de la jeu?
Honnêtement, certains, oui. Et je pense que des choses sont en train de changer grâce à ça. On a un pouvoir qui est limité et pour des milliards de défaites, et ben si on a une victoire, c'est déjà le cas. Angela Merkel, après avoir rencontré certains jeunes, a décidé de ne pas signer l'accord du Mercosur tant qu'il n'y avait pas d'avancée faite sur la question de la déforestation. Alors on y a participé, on ne dit pas que c'est simplement nous qui avons permis ça, mais... quand même, petit à petit. Quand on était devant la Commission européenne avec Greta, Adelaide, etc., on a des ministres qui sont venus nous voir, de la Finlande, de l'Espagne, pour dire « mais merci d'être là, en fait. Heureusement que vous, 20 jeunes, êtes là parce que vous êtes beaucoup médiatisés et que donc aussi, nous, à la table des négociations, ça nous permet de pouvoir pousser plus loin, de pouvoir pousser un pourcentage plus élevé pour la loi climat de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que donc, en fait, on participe aussi à mettre sur la table ces questions.
Simon Roger.
Ce qui me semble intéressant aussi, c'est la dimension un peu protéiforme de cette mobilisation de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a ces voix qui portent, comme la vôtre, celle de Greta et d'autres. Il y a aussi des mouvements un peu moins connues. En tout cas, il y a aussi des actions judiciaires. On a parlé un peu tout à l'heure de l'affaire du siècle. Je crois que récemment, il y a eu une action intentée par ces quatre jeunes et deux adultes, donc de 8 à 21 ans, donc 6 ressortissants portugais, qui ont sollicité la Cour européenne des droits de l'homme. Toujours sur ces questions d'inaction climatique de l'État dans la situation actuelle. Donc il y a cette forme-là, et puis il y a aussi, d'une certaine manière, tous les anonymes qui, à travers une marche pour le climat du vendredi, une action dans leur lycée, participent à leur manière à ce mouvement.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il n'y a pas 10 points pour sauver le monde. On peut pas faire, il n'y a pas 10 actions ou comment devenir le parfait activiste et que ça va marcher. Parce que c'est tellement complexe, c'est une société entière qu'il s'agit de faire advenir. C'est un nouveau rapport au monde. Changer de ce rapport de domination qu'on a de l'homme sur la nature, de l'homme sur la femme, des blancs sur les noirs, des plus riches sur les plus précaires. C'est tout ce rapport-là qu'il faut changer. Et donc dans cette nouvelle société, il y a de la place absolument pour tout le monde. Ce que je dis souvent et ce qui est très important, c'est d'oser se poser cette question vertigineuse. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui vraiment m'anime? Si c'est pour faire du journalisme, eh ben très bien, faites-le, mais parlez de ces sujets-là. Si c'est pour être artiste, très bien, faites-le, mais chantez des chansons qui nous donne envie d'aller de l'avant. Si c'est pour mettre les mains dans la terre, bah soyez paysans. Nous, il se trouve que, en effet, là, on est un peu médiatisé, mais on participe juste exactement de la même manière que tous les autres. On n'est pas du tout tout seul. En fait, moi, je suis juste un haut-parleur qui fait ce lien. Sans les journalistes pour m'inviter parce qu'ils ont envie de parler de ces questions-là, ben ça ne marche pas. Sans les scientifiques qui passent du temps avec nous, la jeunesse, pour nous éduquer, ça ne marche pas. Sans tous les gens qui mettent les mains dans la terre derrière, ça ne marche pas, dans l'action aussi. Donc, en fait, voilà, nous, on est juste un haut-parleur parce que il se trouve que moi, la raison pour laquelle je me suis levée le matin, c'est que je me suis dit que j'aimais bien utiliser les mots pour bousculer un peu les consciences. Donc je le fais et c'est tout. Et c'est juste une manière de faire.
Alors, parmi les haut-parleurs dont vous parlez, en tout cas ces porte-paroles de la jeunesse, il y en a eu en leur temps aussi. Je vous propose d'écouter l'extrait du discours de Severn Cully-Suzuki. C'était au sommet de Rio en 1992, une jeune Canadienne de 12 ans.
Nous sommes un groupe d'enfants de 12 à 13 ans du Canada. Nous avons collecté de l'argent pour pouvoir entreprendre ce long trajet de 9500 km afin de vous dire, chers adultes, que votre attitude doit changer. Je suis ici pour parler au nom de tous les enfants. Je suis ici pour parler pour les innombrables animaux qui meurent autour de la Terre parce qu'ils ne trouvent pas d'espace vital. J'ai peur d'aller au soleil parce que la couche d'ozone présente des trous. J'ai peur de respirer de l'air parce que je ne sais pas avec quelle substance chimique il est contaminé. Autrefois, j'allais souvent à la pêche avec mon père, jusqu'au jour où, il y a quelques années de ça, nous avons trouvé les poissons pleins d'ulcères. Et maintenant, nous apprenons que beaucoup d'animaux et de plantes disparaissent chaque jour. Dans ma vie, j'ai souvent rêvé de voir les grands troupeaux d'animaux sauvages, la jungle et les forêts équatoriales pleines d'oiseaux et de papillons. Mais maintenant, je me demande s'ils existeront toujours afin que mes enfants puissent s'en réjouir un jour. Vous êtes-vous préoccupé de toutes ces petites choses quand vous aviez mon âge? Tout ceci se passe sous nos yeux et malgré tout, nous nous comportons comme si nous avions du temps à volonté et toutes les solutions. Je ne suis qu'une enfant et je n'ai pas toutes les solutions. Mais je voudrais que vous compreniez que vous non plus. Vous ne savez pas combler les trous dans la couche d'ozone. Vous ne savez pas comment faire nager un saumon à nouveau à contre-courant dans un fleuve pollué. Vous ne savez pas comment faire revenir un animal disparu. Et vous ne pouvez pas non plus faire revenir les forêts qui jadis se trouvaient là où aujourd'hui est le désert. Si vous ne savez donc pas comment réparer tout ça, alors, s'il vous plaît, arrêtez de tout détruire.
Et oui, cette jeune fille qui, en 1992, interpellait tous ces grands du monde de l'époque réunis à Rio 1992, c'était la Greta Thunberg de ce moment et elle était une jeune fille impliquée, donc vivant au Canada, devenue biologiste, hein, depuis restée toujours militante écologiste et mariée d'ailleurs, je crois, Simon Roger, à un Indien, en tout cas quelqu'un qui justement porte cette terre-mère.
Je sais qu'elle vit toujours là-bas. Elle vit dans une île donc canadienne. Je sais aussi que ça nous intéressait de lui parler. En fait, on lui a parlé il y a quelques mois parce qu'on voulait avoir un peu son regard. Et ce qui était intéressant, et puis après, je vais laisser Camille réagir. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, mais donc Rio, donc bien longtemps avant le personnage de Greta Thunberg, c'était justement, on lui a demandé évidemment assez simplement, mais qu'est-ce qui a changé depuis? Comment vous percevez un peu cette mobilisation de la jeunesse aujourd'hui, hein, en 2020? Et sa réponse était de dire deux choses. Déjà qu'en 92, ces choses-là étaient encore assez mal connues et que finalement, ce qu'on dit ou ce qu'elle disait en 92 du climat, des questions de justement de déclin de la biodiversité, etc., c'était des choses pas si fréquentes dans les arènes internationales, alors que maintenant, ça fait partie du débat public, je crois. Et l'autre chose, c'est que ce qui a changé aussi, c'est que entre-temps, il y a ce qui s'appelle Internet et les réseaux sociaux, et que maintenant, il y a une caisse de résonance qui est beaucoup plus forte, alors c'est peut-être un espoir, mais qui est très très différente de ce qu'elle a vécu en 92.
Alors Camille Etienne, comme le dit Simon Roger, une caisse de résonance, mais aussi des réseaux sociaux qui véhiculent aussi une extrême violence vis-à-vis de ces mouvements jeunes.
Si vous saviez le nombre de fois je me fais insulter sur Twitter et menacer, c'est extrêmement violent, mais c'est comme ça. Et la violence du monde qui nous attend et des gens qui déjà, les 50 000 personnes qui meurent déjà de la pollution de l'air chaque année en France, des sécheresses, etc. Je me dis que ça vaut quelques insultes sur Twitter de les défendre. Non, mais au-delà de ça, enfin, de voir ce discours-là, je me dis, c'est quand même assez fou de savoir qu'on savait déjà à cette époque-là. Et que là, on dit que ça y est, ça a occupé l'espace public, il faut quand même se rendre compte que non. C'est parce qu'on est aussi dans notre cercle, dans notre algorithme, grâce aux réseaux sociaux ou à cause, justement, qui fait qu'on voit les mêmes émissions, qu'on voit, moi je lis bien sûr Le Monde, j'écoute France Culture, donc j'ai l'impression que c'est bon, on en parle à fond. C'est qu'un sujet, Reporters d'Espoir a sorti une étude qui disait que 1% seulement des sujets parlent du réchauffement climatique et de l'urgence de la biodiversité dans les médias. On a quand même encore un quart des Français qui sont climato-sceptiques, dont un tiers des jeunes. Donc en fait, non, on n'en parle pas du tout assez. Le premier candidat aux élections présidentielles, Nicolas Dupont-Aignan, il a fait un discours, c'était 2 lignes. Je veux dire, non, on n'en parle pas du tout assez parce que, en fait, encore une fois, c'est pas un hobby. On parle de nous, on parle de la vie, des vivants, donc ça devrait être prépondérant, on ne devrait parler que de ça. Et si on traitait de la même manière l'urgence du Covid, par exemple, et l'urgence, parce que c'est deux crises extrêmement liées, mais juste pour dire ça, le Covid, c'est entre 30 et 40 000 morts. C'est des gens morts, évidemment, que ça m'attriste beaucoup, des proches aussi. Donc c'est important d'en parler, bien sûr, de prendre des mesures, de traiter la crise comme une crise. Pourquoi maintenant est-ce que quand on a 50 000 personnes qui meurent en France chaque année aujourd'hui de la pollution de l'air, on n'en parle pas autant? C'est une crise, on ne la traite pas comme une crise.
Je crois que c'est Laurent Fabius dans son dernier livre qui dit « Si la planète avait été une banque, on l'aurait sauvée ». Est-ce que vous connaissiez Severn Kelly Suzuki? Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer?
Jamais, j'aimerais beaucoup, si on peut se voir en bateau. je ne sais pas trop comment, on peut prendre le bateau chacun.
On commencera par organiser quelque chose en...
En visio.
Google Meet ou un truc comme ça.
C'est vrai, en vrai. Bon, c'est vrai que ce serait.
À défaut d'autre chose.
Même
mais
si.
Je pense qu'elle sera prête à dialoguer avec vous ou avec Jonathan Bernberg ou d'autres.
Ouais. Est-ce que, Camille Etienne, justement, le vote n'est pas l'arme ultime, peut-être, aussi pour vous, les jeunes? Parce que ce monde des décideurs, ce monde aussi des politiques, des dirigeants, il est focalisé sur ces enjeux, hein, sur qui arrive à la tête d'un État. Et on voit bien que les personnes à la tête des États jouent aussi leur rôle. Et tout le monde doit prendre une part, mais eux, beaucoup, bien évidemment. Est-ce qu'ils peuvent avoir aussi de ce vote jeune? Parce qu'aujourd'hui, ça ne leur fait pas peur, il y a un tel abstentionnisme.
J'ai porté une mesure pour porter le droit de vote à 16 ans, il y a quelques semaines. Donc aussi, bien sûr que c'est une des manières d'agir. Maintenant, faut pas penser que c'est la seule, parce qu'on se rend compte que quand on arrive et qu'il y a des gens comme Emmanuel Macron qui arrivent avec des ambitions en se présentant, je sais plus quelle était sa formule, mais comme quelqu'un qui était important diplomatiquement sur ces questions-là, et qu'on voit qu'en fait, petit à petit, il recule sur tout. La Convention citoyenne, rien que la nouvelle du jour, il a dit que ça pouvait peut-être attendre un peu de traiter les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, parce que quand même, il y avait le Covid. Donc voter, oui, c'est important, je le ferai. J'invite les jeunes à aller voter pour des candidats qui prennent la chose au sérieux. Maintenant, c'est pas du tout la seule mesure, et il faut qu'on continue à pouvoir faire pression sur eux constamment pour leur rappeler qu'on les a élus pour une raison et qu'il faut qu'ils tiennent le cap. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
La formule que vous cherchiez peut-être, c'est Make our planet great again, qui était la formule de Macron. Ça tombe bien parce que c'était pratiquement l'entrée, en tout cas, pas en politique, mais le début du quinquennat de Macron.
Et le lancement du One Planet Summit.
Voilà, c'était au moment où la France, d'ailleurs, était plutôt bien inspirée à ce moment-là. Faisait le contre-pied des États-Unis et du retrait de l'accord de Paris annoncé par Trump. Mais c'est vrai que si on prend cette formule-là, justement, il faut pas seulement acter ce qui s'est passé en 2017 et puis maintenant faire le suivi. Vous mentionnez tout à l'heure les études. C'est d'ailleurs aussi Emmanuel Macron qui a mis en place le Conseil pour le climat et qui, en fait, est une instance qui est tellement autonome et indépendante qu'elle critique rapport après rapport ce que fait la France, ou plutôt ce que ne fait pas la France. Donc, effectivement, la question, c'est d'interroger un peu la parole politique et les actions qui suivent.
Dernier point peut-être qu'on peut aborder ensemble, il y a ces actions de plus en plus qui se multiplient en justice pour porter les droits de la Terre et des générations futures. Le 20 décembre 2019, par exemple, la Cour suprême des Pays-Bas, saisie par l'ONG Urgenda et des citoyens néerlandais, a condamné l'État pour inaction climatique. Est-ce que vous, jeunes, vous avez ou des projets où vous portez des actions aussi en justice? Est-ce que ça peut passer par là?
Bien sûr, je suis porte-parole du mouvement On est prêt, qui avait quand même été avec d'autres ONG, hein, mais on avait porté cette affaire du siècle, qui est en cours. On a besoin de témoins. Récemment, il y a un bout de montagne qui est tombé juste à côté de chez moi, là où j'ai grandi. Ça m'a particulièrement touchée. Et donc, en fait, voilà, on peut témoigner sur le site Notre Affaire à tous, et l'affaire du siècle, surtout, des conséquences qu'on vit en tant que devenir grand témoin pour le climat et montrer les conséquences qu'on vit déjà chez nous sur le réchauffement. Donc oui, c'est une manière d'agir, comme tout, comme les grandes entreprises, comme refuser d'aller travailler chez eux, comme voter, comme... Non, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est quand même que quoi ? On parle tout le temps du monde de demain, de tout ça. Ça, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, il faut le faire sortir des tribunes et des tweets et le mettre en place concrètement. Il y a des gens qui se bougent déjà. Nous, on est là, on est plein des milliers à y croire encore et vraiment, on laissera rien tomber. Parce que c'est pas non plus trop tard, on n'est pas déjà foutu. Parce qu'il n'y a pas en 2050 un petit lutin qui va nous dire « Très bien, bravo, vous avez réussi, vous avez sauvé l'humanité. » Ou alors, inversement, « C'est foutu, vous allez tous mourir. » C'est beaucoup plus complexe que ça. Et rien que pour chaque micro-centimètre de banquise, ça vaut le coup de se battre. Pour chaque espèce qu'on sauve, ça vaut le coup de se battre. C'est pas que des chiffres. Pour chaque personne qu'on sauve de la sécheresse, de la famine, de réfugiés climatiques qui n'auront pas à quitter leur terre et qui n'ont pas à le faire déjà aujourd'hui, ça vaut le coup de se battre aussi. Ça peut être un monde plus beau. On nous dit souvent qu'on est triste, qu'on fait peur. On fait peur parce que la réalité est dure, mais nous, ce qu'on demande, c'est un monde plus beau. Et je finirai juste là-dessus. Si je vous donne une feuille blanche à vous deux et à tous ceux qui nous écoutent, en disant pas dessine-moi un mouton, mais dessine-moi le monde que tu veux. Qui, honnêtement, dessine celui-là parfaitement dans tous ses traits? Personne. On est d'accord qu'il y a des choses qui vont pas et c'est pour ça qu'il faut qu'on ose bousculer un peu tout ça. Et ça peut être plus beau. C'est à nous, ça dépend de nous. Et ça peut être un monde de demain où on met les valeurs d'amour, de liberté, d'égalité, qu'on les fait sortir de la désuétude et qu'on rend ça cool.
Donc faisons exploser les couleurs de la Terre, qui est effectivement une très belle planète. Quand on voit les images et les photos de cette nature, elles existent bien évidemment, Camille Etienne, et il faut les garder en mémoire. Un mot à rajouter, Simon?
Non, mais donc arrêtons de parler de la planète de demain, du monde de demain. Donc on,
c'est celle d'aujourd'hui.
On parle et on construit le monde d'aujourd'hui. Et puis,
allez, ouais. Let's go.
Merci.
On vous attend, vous êtes tous les bienvenus. Et juste Emma Goldman disait ça, c'est « Je ne viendrai pas à votre évolution si personne n'y danse ». Donc croyez-moi, nous on y danse beaucoup, donc vous êtes tous bienvenus pour danser avec nous.
Merci à tous les deux, donc Simon, Roger. On retrouve tous les articles et les dossiers augmentés, bien sûr, sur le site de l'émission, sur le site dumonde.fr. Les réalisations de votre duo artistique Pensée Sauvage, Camille Etienne, on peut peut-être citer l'équipe autour.
Solène Moisan qui est toujours là, et on est prêts, n'hésitez pas à aller regarder.
Et puis comme d'habitude, eh bien, vous retrouverez toutes les informations, bibliographies, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition. Mardi prochain, nous nous intéresserons à la future PAC, la politique agricole commune, et nous serons notamment avec Maxime de Rostolan et Hilaria Casillou. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Restez bien à l'écoute avec dans quelques minutes le journal de la rédaction.